Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient sur France Culture, nous reprenons le rythme du voyage et voguons comme les anciens marins jusqu'à l'île de Chypre, en Méditerranée orientale. Notre capitaine du jour est Laurent Fenoy, universitaire passionné par cette partie du monde, le Levant, région au pluriel que vous connaissez intimement et dont nous allons parler ce matin par un livre remarquable qui vient de sortir aux éditions Göttner, édition que je salue au passage pour la qualité de leur ligne éditoriale. Votre ouvrage s'appelle « Chypre, l'île des nations chrétiennes, 1192-1473 ». Vous évoquez la période médiévale. Alors d'abord, l'île de Chypre est quand même peu connue. Et pour ceux qui savent situer Chypre sur la carte, la période médiévale est encore moins connue parce que c'est une période attachée à l'histoire de France d'une certaine manière, l'histoire des Lusignans. Alors nous allons voir dans cette émission un panorama d'ensemble sur l'histoire de ce dernier royaume croisé. Laurent Fenoy, bonjour.
Bonjour Sébastien de Courtois, merci pour votre invitation.
Vous êtes agrégé d'histoire, vous enseignez entre Nîmes et Montpellier. Je salue ma ville de naissance et notre cher Midi. Alors, à propos de Chypre, nous avions reçu l'année dernière Sophie Macariou pour son très beau Partage d'Orient qui nous avait déjà une première fois permis d'aborder cette île, mais plutôt par le biais de l'histoire de l'art. Une première question, Laurent Fenoy, comment vous vous êtes intéressé à Chypre au fond ?
Je peux dire que mon intérêt pour Chypre s'inscrit dans le prolongement de mes études d'histoire. J'ai eu la chance à l'université de Montpellier d'avoir pour professeur le professeur Gérard Dédéian, lequel est un éminent spécialiste de l'histoire des Arméniens. Et les cours de Gérard Dédéian étaient passionnants parce qu'il nous invitait à considérer l'histoire du Proche-Orient médiéval, non pas sous l'angle exclusif d'un affrontement islamo-chrétien, donc sous l'angle de l'histoire des croisades, et nous inviter à une rencontre entre les différentes communautés. Et on peut parler d'un foisonnement des communautés au sein du Proche-Orient médiéval.
Alors, c'est une chose, pardon, de découvrir un lieu par les livres, mais c'en est une autre de se rendre sur place et d'y consacrer finalement sa vie de chercheur.
Alors, tout à fait. Je me suis ensuite intéressé à ces différentes communautés chrétiennes orientales et j'ai pu mesurer dans l'île de Chypre à quel point elles n'avaient pas été des acteurs passifs de l'histoire, mais au contraire, confrontées à l'affrontement des empires, elles ont joué un rôle éminent en tant que protagonistes actifs. Et dans l'île de Chypre, encore de nos jours, on peut vérifier le dynamisme de ces communautés arméniennes, maronites, etc.
Alors Chypre, comment vous vous y êtes rendu à l'époque ? Est-ce que vous avez été invité ? Est-ce que vous avez eu une bourse ? Est-ce que vous vous êtes dit « le sujet est mal connu, j'ai peut-être ma chance de trouver un domaine encore réservé ?»
Alors, j'ai bénéficié de beaucoup d'aide lorsque j'ai entamé mon travail de thèse, qui était consacré au rôle de refuge de l'île de Chypre, thèse que j'ai soutenue en 2011. Et effectivement, j'ai bénéficié d'échanges universitaires, j'ai bénéficié de bourses offertes par le Centre de Recherche Scientifique de Chypre. J'ai travaillé également à l'université Luzek de Kaslik. J'ai bénéficié également...
Au Liban.
Oui, au Liban, merci. J'ai bénéficié de l'aide de l'Institut hellénistique de Venise, de l'École française d'Athènes. Et donc, ces recherches ont été soutenues par différentes institutions que je remercie évidemment.
Quelles sont vos premières impressions, Laurent Fenoy, de Chypre ?
Chypre, c'est dans un contexte mondialisé, dans un contexte où la globalisation, l'uniformisation des cultures peut remettre en cause la spécificité des identités. Chypre me semble être une île, justement, où les identités, les différentes identités restent marquées, avec malgré tout un plaisir de vivre ensemble. Donc il y a un entre-soi très marqué entre ces différentes communautés, mais un vivre ensemble extrêmement dynamique aussi.
Alors une île toujours divisée, on ne va pas parler trop de l'actualité parce que ça nous éloigne de la période des Lusignans, mais qui a son identité propre, hein. C'est assez frappant quand on s'y rend. Alors dans cette histoire médiévale, vous vous êtes intéressé à l'histoire des Lusignans. Dites-nous un petit peu qui sont ces gens-là, cette dynastie, le premier étant Guy de Lusignan.
Alors c'est vrai que pour nous, Français, nous ne sommes guère habitués à réaliser qu'une dynastie poitevine, en l'occurrence les Lusignans, a contrôlé l'île de Chypre, aussi éloignée de notre continent.
Et son église aussi, hein, votre lapsus, c'est quand même, va dans la bonne direction.
Tout à fait. Je mordais déjà sur les propos à venir et sur la confrontation des différentes confessions dans cette île. Ce qui se passe, c'est que l'île de Chypre est sous la domination des Byzantins jusque dans les années 1190. Et dans le cadre des croisades, alors que Saladin et les Ayoubides viennent de reprendre Jérusalem en 1187, s'ébranle la troisième croisade. Et Richard Cœur de Lion, qui participe à cette troisième croisade, lorsqu'il est en route vers la Terre Sainte, s'empare de l'île de Chypre au détriment des Byzantins, puis il la cède immédiatement après aux Templiers, lesquels la revendent en 1192 à Guy de Lusignan. Guy de Lusignan, en 1192, c'est un roi déchu, il était roi de Jérusalem, et donc il a été évincé du trône, et il trouve refuge dans l'île de Chypre. Les sources grecques, non sans malice, nous disent que Saladin a encouragé Guy de Lusignan à acquérir l'île de Chypre afin d'y installer les Latins pour que ceux-ci n'entrent plus en confrontation avec les Ayoubides. Alors à partir des années 1190, la dynastie des Lusignans s'installe très durablement, puisque Emery de Lusignan, dès 1197, s'affirme sur le trône de l'île de Chypre. Et ensuite, les Lusignans demeurent rois de Chypre jusqu'aux années 1473. Et entre 1473 et 1489, eh bien, par le jeu des alliances matrimoniales, les Vénitiens parviennent à s'emparer de l'île.
Alors c'est une présence qui dure longtemps, presque quatre siècles de règne, avec des hauts et des bas, hein, c'est une histoire absolument fascinante. Pourquoi est-elle si méconnue à votre avis ? Est-ce que c'est lié à cette idée de croisade dont on... qui a une image négative dans l'histoire? Est-ce que parce que la présence ottomane, ensuite la présence britannique de l'île a fait que Chypre est sortie de la carte mentale peut-être de l'histoire de France?
Déjà, durant la période de domination des Lusignans, les Latins, ainsi que les Arméniens, réclament auprès de l'Occident le prolongement des croisades. Ils demandent l'assistance de ce qu'on peut appeler les Européens. Et cette assistance ne vient pas, en grande partie parce que les Francs sont occupés par le long épisode de la guerre de Cent Ans. Donc ça, c'est pour ce qui est des raisons contemporaines. Par la suite, Chypre est redécouverte au XIXe siècle par des historiens, en particulier Maslatry, des historiens de l'art également, Camillon Lard, et l'intérêt va à nouveau se focaliser sur l'histoire de l'île de Chypre, et il y a un renouveau des études chypriotes qui s'opère.
Un petit mot sur l'architecture qui est quand même assez fascinante pour ceux qui ont découvert Nicosie, la capitale donc de Chypre, qui était déjà, je crois, la capitale à l'époque médiévale.
Oui, tout à fait. Alors, Nicosie, effectivement, c'est la capitale latine. et s'y opère avec élégance les transferts culturels entre latins, grecs, chrétiens orientaux. En témoigne par exemple la cathédrale Sainte-Sophie, somptueux édifice gothique au sein de Nicosie.
Donc cette architecture qui est quand même assez fascinante quand on arrive et qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on voit tout d'un coup ces cathédrales qui pourraient être dans la campagne.
Oui, en même temps, ces édifices révèlent des transferts culturels. C'est-à-dire qu'on peut trouver des édifices mêlant l'art gothique avec des coupoles byzantines. On peut également trouver des églises chrétiennes orientales mêlant dans différents espaces au sein de l'église un art spécifiquement gothique, des plans arméniens, bref, révélant des transferts culturels très dynamiques.
Est-ce qu'en termes de géographie, vous pouvez nous décrire l'île de Chypre? Quelles sont les parties qui vous ont particulièrement intéressé, qui vous ont apporté des informations? Alors, je sais qu'il y a Famagouste. Hein. Famagouste, on en parle peut-être dans le cadre d'une prochaine rencontre. Mais vous-même, qu'est-ce qui vous a particulièrement attiré à Chypre?
Alors, l'île de Chypre est un véritable conservatoire architectural, un conservatoire de culture situé à quelques dizaines de kilomètres du continent, à une centaine de kilomètres du Liban, et donc s'y affirme des influences mêlées. Ce qui m'a le plus marqué, c'est au travers des recherches que j'ai effectuées, de voir qu'il y a différentes régions de Chypre qui révèlent différentes influences et différents héritages. Par exemple, le Troudos, c'est un sanctuaire grec. Mais au sein de ce sanctuaire grec, on voit également des influences des chrétiens orientaux, des influences des latins apparaître. On voit également dans le nord de l'île de Chypre, sur les flancs du Panadactylos, nombre de villages maronites qui ont demeuré, plusieurs dizaines de villages maronites qui témoignent de l'attachement de ces communautés à vivre ensemble. Même chose pour les toponymes arméniens qui sont encore très nombreux, Arménides, Arménia, etc. Voilà ce qu'on peut dire de la géographie de cette île de Chypre, une géographie humaine très dense, montrant des influences croisées et révélant la dynamique des échanges.
Alors revenons sur l'histoire des Lusignans, qui est quand même le cœur de notre rencontre ce matin, une histoire absolument fascinante qui s'étend presque sur 4 siècles. Vous avez évoqué le fondateur, donc qui achète l'île, Emery, qui est son frère, je crois.
Tout à fait.
Quels sont les autres dynastes qui ont compté de cette période intéressante?
Alors, ils sont nombreux, mais peut-être qu'on peut souligner le rôle d'Henri II de Lusignan, puisque Henri II de Lusignan, c'est le souverain qui a dû faire face au triomphe des Mamelouks et donc à l'éviction des croisés. Et il a dû gérer l'arrivée de quantités de réfugiés francs, chrétiens orientaux, dans l'île de Chypre. Il s'est retrouvé confronté à deux lignes. Une ligne selon laquelle il convenait de vivre ensemble dans l'île de Chypre. Il n'était pas possible de récupérer la Terre Sainte. Et au contraire, une autre ligne plus offensive qui consistait à faire primer la primauté franque en Orient et qui encourageait la reprise des hostilités contre les Mamelouks. Donc Henri II a su imposer la première ligne, la ligne du vivre ensemble, tant il apparaît que sans le concours des puissances franques, il était impossible de récupérer la Terre Sainte. Mais le souverain qui a recueilli l'héritage d'Henri II, c'est Hugues IV de Lusignan. Là, nous sommes dans les années 1340. Et Hugues IV de Lusignan, c'est un souverain qui est entré dans l'histoire par sa capacité à faire vivre ensemble des sujets de toute obédience, des Grecs, des chrétiens orientaux, des Latins. Sous son règne, les Lusignans s'investissent dans les politiques religieuses pour nuancer l'influence de la papauté, pour nuancer les aspirations hégémoniques de l'Église latine et pour garantir l'indépendance des églises chrétiennes orientales et grecques. Son règne est prolongé par celui de Pierre Ier de Lusignan, également un grand souverain. Mais entre Pierre Ier de Lusignan et Hugues IV, se trouve une opposition majeure, à savoir que Hugues IV refuse de prolonger l'affrontement avec les Mamelouks. Il préfère déplacer la lutte contre les voisins musulmans plus au nord pour vivre en paix avec les Mamelouks et afin de garantir le dynamisme économique qui permet à Chypre de se maintenir. Alors que Pierre Ier de Lusignan, lui, Hugues de Lusignan est loué tant par les Grecs que par les Mamelouks. Sa pondération est louée, elle est reconnue de manière universelle. Pierre Ier de Lusignan, lui, il renoue avec un esprit dont je pourrais parler par la suite, qui est l'esprit chyprois. Les Chyprois, le terme provient des sources du XIIIe siècle, et ce sont des puissants feudataires qui possèdent des fiefs aussi bien en Terre Sainte que dans l'île de Chypre, et dont la ligne politique principale est celle du prolongement des croisades et du maintien de la présence franque en Orient. Alors c'est vrai que les Chyprois, depuis le règne d'Henri II et le règne du IV de Lusignan, sont sur le déclin, mais à l'époque de Pierre Ier de Lusignan, il y a un renouveau, et Pierre Ier de Lusignan voyage en Europe, veut persuader les puissances européennes de renouer avec l'idéal de la croisade et s'aventure dans une nouvelle croisade. C'est ce qu'on appelle l'expédition d'Alexandrie.
Et il prend Alexandrie, je crois bien.
Oui, mais les opérations de Pierre Ier de Lusignan sont vouées à l'échec. Elles sont temporaires et elles s'affirment davantage sur un plan symbolique, avec le retour dans l'île de Chypre des symboles chrétiens du Proche-Orient, en particulier des reliques, avec également le renouveau des titres nobiliaires du Proche-Orient, d'accord, enfin de Terre Sainte, mais il s'agit d'expéditions sans lendemain. Et finalement, le règne de Pierre Ier de Lusignan semble être une apothéose, mais amorce le déclin territorial, le déclin politique, économique de Chypre, parce qu'en renouant avec une dynamique conflictuelle à l'égard des Mamelouks, Chypre n'a pas le dernier mot, et au contraire, les divisions internes s'instaurent. Les Génois s'emparent de Famagouste, ce qui porte un coup fatal à l'économie de l'île.
Qui est le grand port de l'est de l'île de Chypre, tourné vers le Levant, vers les côtes syriennes. Peut-être un petit détail de géographie, c'est de rappeler la proximité de la pointe la plus extrême de Chypre, donc cette pointe du Carpaz, avec le monastère de Saint-André complètement au nord-est, et les côtes syriennes, moins d'une centaine de kilomètres, je crois.
Voilà, c'est vrai que lorsqu'on visite le Carpaz et lorsqu'on est à l'extrémité orientale de l'île, par temps clair, on aperçoit le continent. Et donc là, nous avons 70 kilomètres.
70.
C'est-à-dire que les marins peuvent naviguer à vue les reliefs vigoureux de l'île et du continent, leur servant d'amer et permettant donc de naviguer facilement.
Donc tant qu'il y a des restes de cette présence croisée sur le continent, disons en Terre Sainte, Chypre est une île refuge, une île où les flottes s'arrêtent, se refont, on prend des vivres, on nourrit ce qu'il faut nourrir, et peut-être une étape vers justement la Terre Sainte. Une fois que les derniers royaumes croisés n'existent plus, Chypre devient une entité à elle-même. Et toujours donc avec cette hésitation, est-ce qu'on repart ou est-ce qu'on repart pas? Et finalement, ils sont restés et ils ont créé une culture propre. C'est Lusignan.
Le rôle de refuge de l'île de Chypre, en réalité, s'était affirmé bien avant l'arrivée des Lusignans. C'est-à-dire que dès la poussée des musulmans sur le continent, de nombreux chrétiens orientaux, de nombreux grecs affluent dans l'île de Chypre.
Nous parlons du 8e, 9e, 10e siècle, 11e siècle peut-être.
Alors le mouvement, selon les sources latines, est important déjà selon Théophane, selon Yahya d'Antioche. Le phénomène est déjà dynamique au 8e siècle. Il s'amplifie surtout dans la seconde moitié du 9e siècle, lorsqu'il y a la contre-offensive byzantine contre les territoires du domaine islamique. Et là, on peut assister aux prémices d'une logique de confessionnalisation des territoires, en quelque sorte. C'est-à-dire que les chrétiens fuient désormais en territoire chrétien et les musulmans en territoire musulman. Le phénomène s'amplifie lors de la poussée seldjoukide, puisque dans les années, au début des années 1070, c'est la défaite de Manzikert pour les Byzantins. Donc les Seldjoukides progressent.
En Anatolie orientale.
Oui, tout à fait. Et là, on s'aperçoit l'intensité des migrations entre le continent et l'île de Chypre, notamment au travers des migrations arméniennes. Ces Arméniens, ils sont poussés vers la principauté de Philaret, ce qui préfigure le futur royaume arménien de Cilicie. Et nous savons que les contacts sont très étroits entre cette principauté de Philaret sur le continent et l'île de Chypre, c'est-à-dire qu'il y a eu un prolongement des migrations arméniennes en direction de l'île de Chypre. Alors déjà, les Arméniens, bien avant l'installation des Lusignans, disposent d'un évêque dans l'île de Chypre. La présence des Maronites est également révélée, puisque des colophons sur des manuscrits révèlent la présence de Maronites dans les années 1120 à Koutsovendis.
Laurent Fenois, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à notre micro de France Culture ce matin. Pour nos auditeurs, je précise que nous allons faire une seconde émission pour continuer ce sujet absolument passionnant. Je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour continuer l'évocation de Chypre, l'île des nations chrétiennes. Je remercie Séverine Cassard pour la réalisation de cette émission, Claire Poinsignon et Julien Doumanc pour la technique. Nous retrouvons maintenant Solae, le rendez-vous protestant. Restez sur France Culture. Bon dimanche.